L'Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, salut Hervé, bonjour Rachel. Avec bonjour. La brillante équipe d'investigation de Radio Classique, nous avons eu beaucoup de mal à trouver le son de Cervantes qui disait « Ce n'est pas la faute du public s'il demande des sottises, c'est la faute de ceux qui ne savent pas leur proposer autre chose. » Voilà une manière romanesque d'accabler Emmanuel Macron. Je citais au contraire Sugar Ray Robinson qui lui pense que pour être un champion, il faut d'abord et avant tout donc avoir confiance en soi, même si personne d'autre le fait. Mais par contre, la même cellule investigation recherche a trouvé cette déclaration de Monsieur Mélenchon qui date de 2012, reprise en 2018. Il a les cheveux bruns castristes. Je dis ça évidemment avec un soupçon d'ironie. Et écoutez-le parce qu'il y a quand même dans ses propos qui tient maintenant depuis des années, ce qui n'était pas le cas quand il était ministre de Lionel Jospin, il y a quand même beaucoup de choses qui mettent le feu aux poudres ces dernières semaines.
Il faut tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire ? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Comme l'a dit Chavez, reprenant une phrase de Trotsky, « La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution ».
Voilà pour les propos de Mélenchon. Et donc on est... depuis le début, dans une ambiguïté totale à l'égard de cette politique, parce qu'il est candidat au présidentiel, il a un groupe parlementaire très important donc à l'Assemblée nationale, et en même temps, les discours de Mélenchon, là, avec son institut, là, au Boissy, où vient d'engager un sociologue suédois qui est un théoricien de la violence, en fait, il a un comportement qui est, je dis pas anti-républicain, mais qui est quand même une sorte d'appel discret à la violence, Hervé, non ?
Discret, vous êtes gentil, Guillaume, c'est pas tellement discret. Il y a un double mensonge, en fait, dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on vient de l'entendre dire, et ce qu'il répète, au fond, parfois en changeant un peu de vocabulaire, mais à peine, ces dernières semaines. Double mensonge, pourquoi ? Parce que...
J'en parle parce que le président en a parlé hier, au ministre,
oui.
Non pas par flagornerie,
mais parce délégitimer les institutions. Alors moi je vais pas jusque là, mais double mensonge parce que d'abord il fait croire que certaines formes de brutalité politique qui peuvent exister dans une démocratie, par exemple l'utilisation du 49-3, mais il y en a d'autres, seraient équivalentes au fond à des violences physiques et à des violences armées. Ça, c'est insupportable dans une société démocratique. Les gens qui vont manifester avec des machettes et avec des boules de pétanque ne sont pas l'équivalent d'un gouvernement qui utilise des mesures constitutionnelles pour contraindre le débat parlementaire, mettre les choses sur le même plan, justifier certaines choses par ses comportements politiques démocratiques est absolument irresponsable et scandaleux. Ça, c'est le premier mensonge.
Le désordre justifié par l'ordre.
Exactement. Et le deuxième mensonge, c'est un mensonge par omission, mais gigantesque, c'est que dans les discours révolutionnaires de Jean-Luc Mélenchon, on peut entendre la première phrase « il faut mettre de la conflictualité partout ». Dans la démocratie, il y a des conflits, mais précisément, la démocratie met en place des règles pour régler les conflits. Et là, Jean-Luc Mélenchon fait semblant de croire, parce que lui sait bien que ce n'est pas le cas, mais malheureusement il le fait croire à beaucoup de gens,
il
fait semblant de croire que nous ne sommes pas dans un régime démocratique et que donc la révolution et l'utilisation de la force et de la violence seraient justifiées par l'absence de démocratie dans notre pays, et c'est évidemment tout le contraire. Donc ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est une révolution contre un régime démocratique et non pas contre une dictature.
Je rappelle le Caligula de Madame Panot, c'est un Caligula
bien
troisième empereur romain.
Ça va dans le même registre.
Despote et criminel à plusieurs reprises. Donc si vous voyez, il y a toujours ce double discours. Un mot de celle qui a beaucoup étudié le droit, tout à l'heure, grâce à notre ami Hervé, on a appris la date, 18 avril, le Conseil constitutionnel. Alors, vous avez peut-être entendu Anne-Charlène Bézina tout à l'heure, elle expliquait en gros ce qui est probable, alors on va essayer d'anticiper, c'est que tout ce qui est extérieur au budget et à l'aspect financier du projet sera retoqué et tout le reste sera pris. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi?
Je pense aussi. Je pense aussi. Après, faut rappeler quand même que le Conseil constitutionnel est un pilier pour notre démocratie, qu'il a un vrai rôle à jouer là dans cette séquence, et qu'il est très attaqué aussi. Et ça, c'est assez étonnant, en fait, dans la période, qu'il soit aussi attaqué justement sur la légitimité, la légalité des institutions, qu'il est très attaqué. Et peut-être qu'il est très attaqué parce que, en droit constitutionnel, il veille à la régularité des élections, et cette régularité des élections a institué Emmanuel Macron récemment aussi. Mais je pense effectivement que là, il y a toute une partie de cette loi qui peut être retoquée. Mais... Absolument. Après, j'aimerais juste rebondir un petit peu sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, et merci à l'équipe d'investigation de Radio Classique d'avoir retrouvé cet extrait.
C'était avec humour.
Non, je sais bien. Cet extrait.
J'ai échoué à retrouver Cervantes.
Ce qui est assez étonnant, en fait, dans la période, c'est avoir de tels propos conflictuels, de cette violence éperdument rare, et pour les personnes qui veulent tenter de réparer la société humaniste, universaliste, qu'on les traite de personnes clivantes. Il y a des gens en sous-texte qui jouent un sale jeu aujourd'hui dans la période, qui sont dans l'ombre, et qui, en fait, par un pas de vaguisme, en étant très finalement conforme à cette violence-là, à ces mots-là de Mélenchon, ont aussi ouvert la porte à cette violence.
Sur le Conseil constitutionnel, d'abord, il n'est pas très sain que le Conseil soit obligé de statuer sous la pression
ça,
politique,
vrai.
Sous la pression de la rue, sous la pression des observateurs. De ce point de vue, je continue de penser, même si je vous ai donné cette date du 18 avril, qu'elle est très lointaine et que c'est regrettable. Il aurait été préférable que le Conseil statuât plus rapidement. Le gouvernement n'a pas voulu demander la procédure d'urgence parce que, vous savez, on répond, c'est ce qu'on m'a répondu à Matignon, hein, c'est on ne veut pas brusquer les sages, le Conseil constitutionnel n'aime pas qu'on utilise la procédure d'urgence. Certes, mais le texte existe et c'est une possibilité qui est offerte au gouvernement. Dans le climat social que nous connaissons, je trouve que c'est dommage que ça prenne autant de temps parce que tant que la décision n'aura pas été connue et rendue, eh bien, le climat risque d'être de plus en plus délétère. Et sur la délégitimation du Conseil, Jean-Luc Mélenchon, toujours lui, l'inénarrable Jean-Luc Mélenchon, a redit ce week-end que, bien entendu, il espérait que le Conseil constitutionnel invaliderait la réforme des retraites, mais que si d'aventure il devait la valider, eh bien, il appellerait à ce qu'on continue les manifestations. Donc vous voyez que, là encore, un incroyable double discours. Jean-Luc Mélenchon reconnaît-il les institutions ou ne les reconnaît-il pas, les reconnaît-il seulement quand elles donnent des réponses qui le satisfont ou pas? Là, vraiment, on est vraiment aux limites de l'exercice pour un
Tout
responsable politique.
Tout à l'heure,
David
Abiker donnait l'exemple d'Israël avec cette loi et la pause qui a été donc instaurée par Benjamin Netanyahu. Est-ce que vous pensez, vous, que ce serait de la sagesse de la part d'Emmanuel Macron, justement, de mettre le doigt sur pause? C'est pour ça que je parlais de doigt tout à l'heure, Hervé, ou est-ce que ça vous paraît totalement délirant par rapport à son projet politique?
C'est pas délirant, mais je pense que c'est une décision très lourde et qu'il faut pas, à mon avis, réduire à une question d'orgueil ou d'hubris ou je ne sais quoi, comme on l'entend parfois, on a toujours tendance à psychologiser beaucoup la politique. C'est une décision très lourde pour chacun de nous et pour tous les successeurs d'Emmanuel Macron, et pas seulement pour les 4 ans qui viennent. Est-ce qu'un président de la République réélu, en ayant annoncé cette réforme dans son projet politique, peut céder purement et simplement à la rue avec des sondages très important, il faut le reconnaître. L'opinion telle qu'elle s'exprime dans les sondages est très largement hostile à cette réforme. Mais
et
néanmoins,
la jeunesse dans la rue,
mais,
et les blessés.
Mais néanmoins, j'y insiste, les taux de grévistes ne sont pas du tout les plus importants qu'on ait connus dans ce pays. Le nombre de manifestants,
quasiment
pas davantage.
Quasiment inexistant en privé.
La réforme de 2010 sur les retraites est passée avec beaucoup plus de manifestants dans les rues. Elle est finalement passée et elle n'a jamais été remise en cause depuis. Donc c'est une décision très lourde. Simplement, pour le dire d'un mot, aujourd'hui, celui qui a les clés de la reprise du dialogue, c'est Emmanuel Macron. Et s'il souhaite vraiment le dialogue, il faut qu'il trouve une ouverture possible pour remettre les gens autour de la table, à condition que les syndicats, eux aussi, fassent un pas vers lui, ce que pour l'instant, ils ne font pas, puisqu'ils refusent toujours de discuter d'une réforme qui inclurait une mesure d'âge. Il pourrait commencer par refuser catégoriquement et de façon extrêmement claire toute forme de violence dans les manifestations, ce que malheureusement ils ne font pas, y compris les plus modérés d'entre eux. Ils disent toujours la violence est inacceptable, mais c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la réforme,
enfin,
etc. Laurent Berger, ce week-end encore, a dit la violence est inacceptable, je la condamne, mais le gouvernement s'est mis dans une situation, etc. Quand on dénonce la violence, il n'y a pas de mais.
Est-ce que vous êtes certain qu'il sera inflexible, Rachel? Le président de la République.
Le président de la République, non mais je pense que là il est dans une obligation de trouver justement ce chemin, parce que sinon je ne vois pas d'issue possible.
D'accord, mais il fait quoi?
Là maintenant, il faut, à partir d'aujourd'hui, il faut que absolument que ce dialogue soit renoué, notamment premièrement peut-être avec
Monsieur Berger. C'est la mission qu'il a donnée à Elisabeth Borne, mais tout le monde en doute.
Monsieur Berger, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon on va où? Il y a absolument pas d'autre solution pour sortir de cette crise, et puis pour échapper quand même à cette folie ambiante. On sent bien dans les rues cette énergie de nous, de nous citoyens, que ce n'est plus acceptable et possible. Il y a la question de la réforme des retraites, et moi je veux croire en tout cas à cette possibilité de retrouver une ligne et un programme fort avec des personnalités forte, qui constitue une majorité pour reprendre, en fait, le chemin de la démocratie. Parce que là, on ne va pas vers la démocratie.
Il reste un mot de conclusion, mon cher Hervé.
Il reste une toute petite fenêtre de tir qui est donnée par les institutions, par la Constitution. C'est l'article 10, c'est la nouvelle délibération. On parle toujours de la motion de la dissolution du référendum et de la nomination du Premier ministre. Il y a un autre pouvoir propre du président, c'est de demander une nouvelle délibération de la loi. Il peut, par exemple, profiter d'une censure partielle du Conseil constitutionnel sur certains articles pour demander la réécriture du texte. À ce moment-là, on retournerait au Parlement et ça pourrait être l'occasion de se réunir avec les partenaires sociaux.
Merci à tous les deux, 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Chloé et Joël pour le rappel des titres à 9h, le journal de 9h. Et après, nous retrouvons avec bonheur Franck Ferrand.